du gouvernement de l'exécutif. Dans les communes, les institutions de la République, la femme béninoise est de moins en moins visible, alors que dans ce pays, nous avons eu à un moment donné 8 femmes dans le gouvernement. Aujourd'hui, on n'en a que 3. Alors que c'est la volonté politique qui doit toujours donner l'exemple, c'est ce que moi j'ai toujours soutenu. Avec la conférence de Beijing, la lutte que nous avons faite à l'époque, avec la conférence nationale des forces de la nation qui a eu et qui nous a sorti la constitution qui a dit en son article ainsi que l'homme et la femme sont égaux en droit, nous avons eu beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui nos espoirs sont par terre, hein. On ne croit plus à rien.
Merci beaucoup.
En ce qui concerne la femme.
Et qu'en est-il du Mali, d'où vous êtes originaire, Kamissa Camara?
Alors, le Mali n'est pas en marge des progrès que les pays africains font en termes de parité. Il y a un quota qui a été instruit, qui est de 30% pour la représentation de la femme au Parlement. Bien sûr,
qu'il est respecté?
Il n'est pas respecté. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Dans le gouvernement actuel, nous n'avons pas plus de 5 femmes. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais un aspect sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est la participation de la femme dans la gouvernance locale. Donc au Mali, dans la gouvernance locale, la femme a un poids qui est prédominant et c'est vraiment elle qui tire tous les aspects de développement locaux, de décentralisation, de pouvoir au niveau des communes. Les femmes sont vraiment un acteur principal au niveau local.
Alors, Domani Doré, est-ce que le retour des quotas qui a permis l'arrivée de plus de femmes dans les assemblées, ou il y a une autre raison, enfin la présence des femmes dans la politique, est-ce que c'est les quotas ou est-ce que justement il y a d'autres raisons qui font qu'elles sont plus nombreuses?
Je veux dire que penser qu'elles sont plus nombreuses, cela dépend de votre approche. Il faut savoir qu'en Guinée, déjà, l'instauration de quotas n'est plus de mise. Désormais, on compte sur la volonté propre des femmes de s'engager naturellement à briguer des postes électifs. Et donc, à ce stade, en Guinée, je peux dire qu'il y a de moins en moins de progrès. Il faut noter justement la grogne que vous avez constatée avec le mouvement Pas sans elle, qui vient se joindre à la pléiade de mouvements qui déjà militent pour qu'il y ait une parité, un temps soit peu, une équité, au moins quant à la représentativité des femmes. Et j'avoue que dernièrement, le professeur Fakonde avait nommé les femmes à des postes régaliens, tels qu'au ministère des Finances, au ministère des Affaires étrangères, et toutes ces femmes ont quitté à l'issue du remaniement dernier. Et vous le savez très bien, la Guinée doit son indépendance depuis 1958, et notamment à la lutte des femmes. Et depuis 1958, nous comptons que 2 femmes candidates aux élections présidentielles, notamment Mme Zara Ndaraba et Marie-Madeleine en 2015 passé. Donc c'est pour vous dire qu'en Guinée, j'avoue que c'est une forme de façade quand on parle de l'implication des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes analphabètes qui sont très engagées, mais malheureusement celles qui ont la capacité de lire et écrire se font de moins en moins présentes. Nous savons tous les raisons. La plupart estiment que c'est un domaine trop sauvage, un domaine trop compliqué, où les contradictions sont parfois très agressives. Et du coup, il y a très peu de femmes capables de mesurer l'enjeu, s'investir. Et naturellement, celles engagées sur le plan politique, apparemment pour les mobilisations de masse, comme dans tous les pays, vous constaterez que les femmes sont devant de la scène. Mais lorsqu'il s'agit de la redistribution, en tout cas en termes de partage de pouvoir, elles sont de moins en moins absentes.
Merci beaucoup pour votre commentaire. Fatousso, quelles sont les femmes sur le continent qui ont retenu votre attention dans leur parcours?
Alors, je vais donner une réponse qui est courante. Et pour moi, Winnie Mandela est ma femme politique préférée, parce qu'elle s'est battue dans un contexte extrêmement difficile, un contexte de racisme, de ségrégation, où elle pouvait mourir à tous les coups. Mandela a été en prison pendant 27 ans, c'est elle qui a maintenu le mouvement. On aurait oublié Mandela si Winnie Mandela n'avait pas entretenu la flamme. Et bien après, une fois que l'Afrique du Sud a retrouvé une vie normale en politique, cette femme a continué à se battre. Pour moi, elle reste un symbole très, très, très fort. Parce que quand ça faisait mal, elle était là.
Oui, vous avez une autre femme en tête?
Une femme en tête? Alors, je vais peut-être prendre seulement des anciennes, hein, mais je pense également à Hawa Keïta. Hawa Keïta a été quand même l'une des premières femmes députées dans l'Assemblée du Soudan à l'époque. Elle était la première femme députée et elle s'était beaucoup battue comme syndicaliste et elle avait mené des batailles qui ont vraiment abouti à l'indépendance. Du Soudan de l'époque.
Donc là, vous parlez du Mali, mais aussi au Sénégal, vous avez eu aussi la première ministre.
Bien sûr, non. Au Sénégal, je pourrais citer Caroline Diop, qui est vraiment un symbole parce qu'elle est la première femme députée. Mais elle est députée dans un contexte difficile, parce que la femme dans notre politique est la cousine de Senghor, donc on pourrait penser que le népotisme a agi là. Mais en fait, c'est une femme qui s'est beaucoup battue contre les colons. Elle était intuitrice, on l'avait punie plusieurs fois pour tentative de rébellion. Et elle a quand même joué ce rôle extrêmement important dans les premières législatures, notamment quand on faisait le travail sur le code de la famille. Elle était là, totalement minoritaire, parce qu'elle était la seule femme. Et ça, c'était, je crois qu'il faut l'en féliciter. Mais je voudrais dire quand même, hein, il y a un nombre assez important de femmes. Et ça, je vais me référer au film, au documentaire de Diabou Bessan sur les mamans de l'indépendance. Mmh. Et les mamans de l'indépendance, c'était aussi bien les institutrices, les sages-femmes, donc les femmes instruites, que les femmes de tous les jours dont on dit souvent qu'elles ne sont que des ménagères. Mais celles-là, on les a retrouvées dans les rues de la Médina, on les a retrouvées dans les villages au Fouta ou au Sénégal oriental. Et ces femmes-là, elles ont poussé les hommes à non seulement revendiquer une indépendance pour laquelle ils étaient tous d'accord. Elles ont fait ce travail aussi bien au sein du BDS, qui était le Bloc démocratique sénégalais de Senghor, que beaucoup plus tard au PAI, dans les années 58. Elles ont été vraiment des fers de lance.
On reviendra justement sur les différents rôles des militantes et des femmes politiques. Marie-Élise Gbedo, au sein de grandes formations politiques, il y a toujours des femmes, mais surtout lorsqu'il s'agit de mobiliser ou pour apaiser en situation de crise comme en Centrafrique. Pourquoi sont-elles cantonnées à ces rôles ? Marie-Élise ?
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends parfaitement.
Bon, au Bénin, il ne faut surtout pas oublier le rôle de Rosine Diarra Soglo. Malgré ses 80 ans, elle est toujours là. Elle a été une femme, elle a créé son parti politique, elle a toujours milité, elle a toujours été à l'Assemblée nationale, elle s'est toujours battue et elle continue. Malgré le poids de l'âge, plus de 80 ans, je dis que c'est la meilleure de ce pays et on doit lui rendre hommage. À part ça, le reste, bon, la plupart sont des demi-lettrés ou bien analphabètes qu'on mobilise, mais auxquels on ne donne pas les places qu'il faut. Elles ne sont même pas formées, c'est le bétail électoral, ce sont les femmes qu'on envoie.
Oui, mais on voit certaines, il y a d'autres femmes qui sont mobilisatrices quand il s'agit de mobiliser un certain électorat, ou aussi même qui sont là pour apaiser. Elles ont un rôle vraiment d'apaisement, comme je le mentionnais tout à l'heure avec Samba Panza en RCA. Mais pourquoi justement ces femmes-là sont cantonnées dans ces rôles très spécifiques ?
Mais je pense que c'est culturel. C'est culturel, c'est-à-dire que on attribue beaucoup plus ce rôle à la femme. N'oubliez pas que la coutume a joué un rôle et déterminant dans l'émancipation de la femme dans notre pays. Les femmes sont encore tributaires de l'autorité du mâle, de ce mythe historique qui est fondé sur l'inaptitude des femmes à gouverner. Et c'est ça qui a justifié l'absence des femmes dans la sphère publique. Et on estime que le rôle de la femme, c'est de jouer à l'apaisement, c'est d'accompagner le mari, c'est de conduire l'homme à réussir. Ce qui fait que même par rapport à l'émancipation politique de la femme, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien, mais à cause des problèmes conjugaux que ça peut amener dans leur foyer, elles préfèrent laisser tomber et s'occuper du foyer. Leurs époux ne les accompagnent pas parce qu'on estime que ce n'est pas le rôle de la femme.
Je vous reprends tout à l'heure. Oui, effectivement, je vous reprends.
Ça n'a l'air de rien, mais ça continue.
Oui, mais quand même, il y a un pays qui est bon élève là dans ce type de représentation de femmes en politique, et c'est le Rwanda. Pourquoi, Kamissa Camara, selon vous?
Alors, c'est d'abord le nombre très élevé de femmes dans le Parlement, qui est à plus de 50%, et je pense que c'est vraiment le leader mondial en termes de représentation de la femme dans le Parlement. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le Rwanda a réussi à atteindre son quota de parité après un génocide. Et vous verrez que dans le monde entier, et surtout en Afrique, la représentation des femmes monte en flèche, justement lorsque on se retrouve dans une situation post-conflit. C'est le Libéria, après une guerre civile, qui a réussi à élire la première femme présidente en Afrique. En Afrique du Sud, c'est après une période apartheid qu'on a réussi à avoir une constitution qui donne beaucoup de pouvoir aux femmes, et au Rwanda, bien sûr, donc un quota de plus de 50% des femmes, parce que le Rwanda est sorti d'un génocide, et les femmes, pendant cette période de crise, porter des rôles non traditionnels, ce qui a fait que après la crise, elles ont réussi à récupérer les mouvements politiques et à s'imposer comme des acteurs principaux.
Domani Doré, très rapidement, on n'a pas entendu beaucoup de voix féminines pourtant s'élever lorsque l'opposante rwandaise Diane Rwigara ou même Victoire Ingabire ont été jetées en prison. Un commentaire?
Il faut savoir que pour moi qui ai séjourné bien qu'un court séjour au Rwanda, j'ai eu le temps de pouvoir discuter avec des parlementaires et surtout avec des citoyens lambda. Et les femmes, elles voient le président Kagame comme quelqu'un qui a réussi à mettre les femmes de son côté de façon totale. Il est très soutenu par la France féminine de sa population. Et du coup, avoir des opposantes de ce sexe à ce monsieur qui aujourd'hui, comme il l'appelle là-bas, un don du ciel, il a été assez compliqué de se rendre compte que ces opposantes n'ont pas bénéficié du soutien de cette masse de femmes qui auraient pu peut-être changer quelque chose à cela. Il faut noter que il y a ce qu'on appelle les intérêts politiques. Naturellement, quand au positionnement d'une femme X ou Y face à une crise. Et si vous me permettez, je reviens un peu sur les exemples que j'étais en train de chercher à persister.
Je vais devoir vous couper parce que Washington Forum revient après cette très courte pause. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Nous retrouvons nos invités au téléphone de Cotonou au Bénin, Marie-Élise Gbedo, avocate et femme politique, mais aussi de Conakry en Guinée, Domani Doré, femme politique et fondatrice de la Guinée audacieuse, via Skype également de Dakar au Sénégal, Fatou Sow, sociologue et féministe, et avec moi sur ce plateau, Kamissa Camara, analyste politique. Alors, nos téléspectateurs ont réagi en ligne, donc quelques commentaires Facebook. Le premier du Mali, Mahamadou Traoré. Elle reste apolitique car très peu de femmes sont instruites en Afrique. Je suis enseignant dans mon académie. Les jeunes filles abandonnent l'école à bas âge au profit des mariages. Il y a souvent des parents d'élèves qui sont hostiles à l'instruction avancée des jeunes filles. On a aussi Alphonse Mbouaki de la RDC. Les obstacles du pouvoir africain au féminin viennent du fait que les femmes n'osent pas postuler. Elles laissent la politique aux hommes, or elles ont des compétences. Et de Côte d'Ivoire, il y a Omar Solin Kofi. Les États africains laissent très peu de chances à une émancipation politique de la femme. Il serait opportun qu'ils œuvrent à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Alors, je vais me tourner vers Marie-Élise Gbedo. Vous avez été candidate 4 fois à l'élection présidentielle au Bénin. Donc, on se demande si les femmes votent forcément pour une femme.
Je dirais non. Puisque même on me le dit en face, les femmes elles-mêmes n'y croient pas. Elles ont, même les femmes intellectuelles, elles n'y croient pas.
Mais quelle est la raison selon vous?
Mais oui, c'est-à-dire que je crois que malheureusement, l'éducation nous a formatés. Et beaucoup de femmes ne croient pas en elles.
Et du coup, on ne croit pas en moi. Moi, combien de fois on m'a pas dit, qu'est-ce que tu vas chercher dans ça? Et il y en a qui me disent, ta place n'est pas là. Et pourtant, ce sont des femmes intellectuelles qui ont voyagé, qui ont vu du pays, qui sont bien. Mais elles ne sont pas convaincues. On va jusqu'à dire, ah, on ne peut pas voter pour toi parce que ce sera une voix de perdu. Donc on préfère voter pour les hommes.
Oui.
On croit que c'est l'homme qui est le chef. Une femme n'a pas sa place.
Je vais me retourner vers Fatou Sow.
Oui.
La récente élection de la Tunisienne Souad Abderrahim, la tête de liste du parti islamique Ennahda, a été qualifiée d'historique car c'est la première fois qu'une femme est à la tête de la capitale d'un pays arabe musulman. Est-ce que la religion musulmane est contre l'émancipation de la femme en politique?
Non, ce n'est pas la religion musulmane en tant que telle, mais c'est la manipulation que les sociétés font de la religion musulmane.
D'accord.
Moi, je suis profondément laïque. Donc j'estime que la religion ne parle pas, la religion ne dit pas, la religion n'agit pas. Ce sont les individus qui agitent la religion, qui leur interdisent au nom de la religion de conduire des voitures, ou qui leur imposent de porter le voile au nom de la religion, mais la religion ne parle pas. Donc je pense qu'il y a cette manipulation de la religion qui fait que c'est extrêmement difficile. Vous savez, je pensais à Fayda Shahin, Leila Shahin, représentante de Palestine. Elle est musulmane dans un monde musulman où il y a le Hamas qui est là, elle est en partie d'en face, mais elle a sa voix.
Mm-hmm.
Alors ce sont des individus qui, sous prétexte d'islam, mais on a retrouvé ça dans d'autres pays avec d'autres religions où les gens n'ont pas tellement leur place. Mais ça me fait énormément dire que c'est la religion musulmane qui empêche. Je pense que c'est la manipulation d'une religion, quelle qu'elle soit, tout ce qu'on parle au nom de la religion pour empêcher les femmes d'arriver à quelque chose. On a manipulé cette religion.
Domani Doré, alors quelles sont les difficultés, les obstacles des femmes dans l'arène politique, vous qui avez été ministre?
Je veux profiter de l'occasion justement pour partager avec vous une analyse qu'a faite un spécialiste politique qui nous a été apporté comme combattant. Il m'a fait, madame, est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'une femme passe par le tremplin politique pour accéder à un poste tel que celui d'être ministre, lorsqu'elle est débarquée de ce poste, elle ne retourne pas dans le creuset de son parti politique, mais se retrouve dans la société civile pour vouloir changer le monde.
Mm-hmm.
Et comme les hommes se prépare à faire carrière en politique alors que les femmes très, très souvent atterrissent en politique et après s'imaginent qu'elles peuvent faire carrière, elles sont très souvent déçues et se retournent vers la société civile où elles estiment qu'il y a au moins des choses qui changent grâce à leurs actions. Et donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui les difficultés sont d'ordre mental. Elle vous le disait tout à l'heure, la dame du Bénin, beaucoup de femmes n'y croient pas. C'est pourquoi notre organisation aujourd'hui qui est un incubateur politique, la Guinée Audacieuse, justement l'appellation audacieuse, les femmes ne sont pas très confiantes. Et surtout, si vous remarquez, chacune d'entre elles pourront vous en témoigner, beaucoup se retrouvent plus soutenues par des hommes que par les femmes. Les hommes sont plus enclins à accepter le leadership féminin. Mais les femmes qui sont plus nombreuses, justement, du moment où elles manquent de confiance en elles-mêmes, estiment que la femme en face ressemble typiquement à elle. Donc cette femme ne peut pas faire ce qu'elle ne peut pas réussir.
C'est très intéressant.
Les difficultés sont...
C'est très intéressant, Kamissa Camara. Oui, Kamissa Camara, y a-t-il aussi une barrière financière pour entrer en politique?
Absolument.
Alors, je pense qu'il y a de nombreuses barrières et les personnes qui étaient sur le plateau, les dames qui étaient sur le plateau les ont citées. Je pense que oui, il y a une barrière financière, mais vous avez un exemple récent aussi aux États-Unis où on est passé à deux doigts d'avoir une femme présidente à la tête du pays. Les Américains ont décidé de ne pas voter pour elle. Et il y a eu des sondages qui ont été effectués après l'élection qui démontraient que non, les Américains n'avaient pas confiance et ne voulaient pas voter pour une femme parce qu'ils pensaient qu'une femme ne pouvait pas diriger ce pays. Donc le problème de l'émancipation de la femme, de la participation de la femme en politique n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial.
Mm-hmm.
Le domaine de la politique est un domaine hostile, il est à plus de 90% masculin et je vous assure que les hommes ne rendent pas la tâche facile aux dames qui veulent s'y aventurer.
Et Fatou Sow, quels sont les préjugés qui sont collés aux femmes dans ce milieu politique? Fatou Sow?
Oui.
Oui, quels sont les préjugés? Oui, quels sont les préjugés justement qui sont collés aux femmes dans le milieu politique?
Écoutez, le premier préjugé,
que l'on entend tout le temps, et je parle vraiment au Sénégal où on a la parité depuis 2010, c'est quand on a dit qu'il fallait 50% des femmes sur les listes, on a dit, mais elles sont incompétentes. Les pays ont supporté 100% de femmes compétentes pendant les 40 à 50 premières années des indépendants. S'ils étaient aussi compétents, on n'en serait pas, on n'aurait pas toutes ces crises, surtout le continent africain. Mais c'est le premier préjugé. Les femmes, elles sont incompétentes. Mais elles sont incompétentes parce que femmes. Et parce que leur rôle, il est supposé être un rôle de... Vous savez, il y a une idéologie de la maternité autour des femmes. Une femme ne veut pas s'occuper de sa famille, de ses enfants et de son mari, et s'occuper en même temps de lui.
Mais alors, est-ce qu'une femme doit être en fait un homme politique? Comment elle doit faire, enfin?
Non, c'est un peu ce qu'on attendait, mais il faut que les femmes, justement, refusent d'être un homme politique. Il faut que les femmes se battent pour être une personne politique, pour que les hommes deviennent enfin, eux aussi, des personnes politiques. Parce qu'un homme politique, c'est facile. On a les avantages que vous donne la culture, la religion, le fait que vous avez été à l'école plus longtemps, etc. C'est vrai que les femmes, elles doivent se battre pour sortir de ce carcan idéologique dans lequel elles sont enfermées, de « occupez-vous de la maison, de la famille, des enfants, mais si vous sortez, à ce moment-là, la famille se délabre, etc. » Et c'est ça. Mais je vais juste donner un exemple sur les... Tout à l'heure, quand on a parlé que les femmes ne votaient pas pour les femmes. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux, on le dit beaucoup, mais on n'a peut-être pas fait un sondage. Mais en même temps, je crois qu'il faut que les femmes en politique se démarquent des hommes qui arrivent en politique sans programme, qui sont parachutés par leur parti et qui n'ont aucun programme, ce n'est qu'un programme large, totalement banal, qui ne sert à rien. Les femmes doivent faire l'effort de faire des propositions en disant à la société et aux femmes en particulier, voilà ce que je vous propose.
Oui.
Je vous jure que ces femmes proposeront des programmes ou des idées ou un cadre qui intéresse et touche la vie quotidienne des femmes et leur vie globalement, vous verrez, les femmes seront là. Sinon, si, comme homme politique, on se conduit comme un homme politique, ça fait splash, hein, et ça... Et après, bien sûr, les femmes seront absolument amères, parce que les clichés continuent, de toute façon, elle n'est pas compétente, de toute façon...
Alors, j'aimerais revenir sur le propos de Kamissa Camara tout à l'heure. Elle a parlé justement, elle a fait référence aux États-Unis. Domani Doré, est-ce que vous pensez que c'est seulement en Afrique que les femmes ne sont pas entendues?
C'est clair que c'est un phénomène qui est mondial, et je dis même souvent que si on parle même de la place des femmes en politique en Afrique, c'est parce que c'est un sujet mondial et que ça touche à toutes les femmes au-delà de nos frontières. Et j'avoue que ce que vient de dire ma sœur, quelque part je ne suis pas très d'accord avec ça. La question n'est pas que les femmes ne font pas de bonnes offres. Les femmes ont de bonnes offres parce qu'elles s'appuient souvent sur des questions qui touchent vraiment à l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout celles en milieu rural, sur les questions de santé, de maternité, des questions de alimentaires, des questions de... Bref, en tout cas, tout ce qui touche en tout cas à la vie des enfants dans le foyer, tout ce qui intéresse les femmes en général. Le problème n'est pas que les femmes en politique ne font pas de bonnes offres. Les hommes n'en font pas, mais sont quand même soutenus. Alors, où est le bémol? Il faut savoir que, quelque part, il y a ce qu'on appelle la manière dont on devrait arriver à faire comprendre aux femmes que le pouvoir n'a pas de sexe. On ne cherche pas à diriger comme une femme, mais à tout simplement diriger.
Le pouvoir n'a pas de sexe, effectivement. Il nous reste quelques petites secondes. Je vais me retourner vers Marie-Élise Bédo pour un dernier mot, très rapidement, un dernier mot sur ce sujet.
Mes sœurs, pour dire qu'effectivement, c'est un problème mondial. Et n'oubliez pas l'exclamation de Laurent Fabius lorsque Ségolène Royal s'est présentée à l'élection présidentielle.
Et ainsi s'achève ce Washington Forum.
Qui sait qui va s'occuper des couches culottes de nos enfants?
Alors, ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci beaucoup, Marie-Élise Bédo. Merci à toutes mes invitées et à mes collègues. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet et rester connecté sur nos pages Facebook. Excellente suite de programme.